Michel le Faucheur. Sermon sur l'échelle de Jacob. Genèse, chapitre 18, versets 12 et 13. Alors il rêva, et voici une échelle posée sur la terre, et le bout de celle-ci touchait jusqu'aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai la terre sur laquelle tu dors, à toi et à ta postérité. » Dieu avait bien, dès le commencement, créé pour l'homme un paradis fort délicieux sur la terre, afin que tant qu'il demeurerait en son innocence, il y passa ses jours de manière heureuse, à l'ombre de l'arbre de vie, chéri de Dieu, servi des anges, favorisé de toute la nature. Mais cet homme ingrat et rebelle, ayant quitté la voie de justice et abandonné le saint commandement qui lui avait été donné, Dieu maudit la terre en sa colère, et en faisait pour lui non seulement un désert stérile à tout bien, mais un enfer fertile à tout mal, pour y vivre dans la langueur, dans l'inquiétude et dans une crainte perpétuelle, non parmi les serpents et parmi les bêtes sauvages, mais, ce qui est bien plus horrible, parmi les malices spirituelles qui l'y entourent continuellement pour le tenter et pour le perdre. Dès lors, et l'innocence que l'homme avait quittée et la félicité dont il s'était rendu indigne, ont quitté la terre pour s'envoler dans le ciel, et tous ceux qui ont eu un véritable amour pour leur propre bien n'ont point eu de plus grand désir que de pouvoir bientôt partir de cette terre d'anathème pour aller habiter là-haut, où ils ont cru que la sainteté vraiment pure et la félicité vraiment accomplie avaient été lu leur unique et éternelle demeure. Mais de monter là-haut d'eux-mêmes, ils n'étaient pas en leur puissance. Et quand ils l'eussent pu, il ne faut pas douter que Dieu, qui après la faute d'Adam et d'Ève, mit à la porte du paradis terrestre ses chérubins, avec leurs glaives flamboyants, pour les empêcher d'y entrer, et qui, donnant sa loi sur la montagne, fit planter des bornes tout alentour, défendant au peuple d'en approcher, sur peine de la vie, ne les eût exclus tout de même à cause de leurs vices. De ce glorieux et sacré ce jour où la sainteté se tient à la porte pour empêcher que rien n'y entre de souillé et pour faire demeurer dehors les chiens et toutes choses immondes, comme il est dit en l'Apocalypse de saint Jean. Ainsi, soit par indignité, soit par l'impuissance de leur nature, ils étaient condamnés à une irrémédiable misère. Mais le Dieu de miséricorde, qui ne veut point la mort des pécheurs, ni qu'aucun des élus périsse, y a trouvé lui-même le remède, leur dressant une échelle au ciel par l'incarnation de son Fils, et par laquelle, d'une façon ineffable et incompréhensible, la terre a été réunie au ciel, et la créature à son Créateur. C'est le mystère de piété, grand sans contredit, qui nous est tellement révélé et tout à découvert en l'évangile de notre salut qu'il a été aussi proposé au Père de l'Ancien Testament sous diverses figures et sous différentes visions, tant pour leur instruction à la vie éternelle que pour la consolation de leur cœur dans les ennuis de leur vie, comme il l'a fait voir particulièrement à Jacob par la vision de l'échelle dont vous avez la description en ce passage. Alors, dit la Sainte Histoire, il rêva, et voici une échelle était posée sur la terre, et le bout de celle-ci touchait jusqu'aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle, et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai la terre sur laquelle tu dors, à toi et à ta postérité. » Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'épandras en Occident, en Orient, au septentrion et au midi, et toutes les lignées de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi et te garderai partout où tu iras et te ferai retourner en ton pays. Car je ne t'abandonnerai point que je ne t'ai fait ce que je t'ai dit. Et quand Jacob fut éveillé de son dormir, il dit, « Pour vrai, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. » Et il eut peur et dit, « Que ce lieu est épouvantable. Ce n'est ici que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. » En ces paroles, comme en toutes les autres de l'Écriture, il n'y a rien d'inutile et qui ne mérite une bien expresse et bien attentive considération, soit pour le temps auquel Dieu a fait voir cette vision à Jacob, soit pour la façon en laquelle il la lui a proposée, soit pour la vision même, soit pour l'oracle que Dieu lui a lui-même prononcé, soit pour les saintes et religieuses émotions qu'il en a ressenties à son réveil. Moïse nous en désigne le temps quand il dit « alors », c'est-à-dire lorsqu'il eut reçu la bénédiction de son père, comme son futur héritier, et son successeur légitime en l'alliance de la grâce. Lorsque son frère, qui en avait conçu une envie et animosité implacable, menaçait de le faire mourir, sitôt que Dieu aurait retiré son père. Lorsqu'il eut été contraint de quitter la maison paternelle et le pays, pour se retirer en Padan Aram, en attendant que la fureur d'Ésaü fût passée. Lorsque s'étant mis en chemin et ayant été surpris par la nuit, il dormait tout seul au milieu d'une campagne, n'ayant d'autre chevet que des pierres, ni autre couvert que le ciel. Alors, dit Moïse, Dieu lui fit voir en songe cette échelle. Pendant qu'il était auprès d'Isaac, il n'avait pas besoin de vision ni de révélation extraordinaire du ciel, parce qu'il avait l'instruction ordinaire et de vive voix de son père. Les assurances extraordinaires d'en haut ne lui étaient point nécessaires lorsqu'il n'avait point ici-bas d'extraordinaire sujet de crainte. Mais à cette heure, comme il est seul, Dieu se présente à lui pour compagnie. Et comme il appréhende les embûches et les fureurs de son mauvais frère Ésaü, il y offre sa protection. Autrement, certes, se voyant immédiatement après avoir reçu la bénédiction d'Ésaü, menacé si furieusement par son frère aîné et contraint de quitter à cette occasion le pays, de s'éloigner de la présence de son père, de se priver de l'accompagner de sa mère qu'il avait toujours tant chérie et de laisser son frère comme maître dans la maison, il eût pu entrer en grand doute, car il était cher et sang comme un autre, de l'effet de cette bénédiction qui lui avait été donnée, comme des arts de la grâce de Dieu et de sa future félicité. Voilà pourquoi Dieu lui a voulu montrer cette vision et pour gage de sa protection en tout son voyage et pour symbole de l'incarnation future de celui qui devait venir de ses reins et en la personne duquel lui et tous les vrais Israélites, ses descendants, devait trouver le salut éternel, qui est la vraie et la principale bénédiction. Or, la lui a-t-il montré en songe, comme bien souvent il se manifestait aux anciens pères en cette façon, imprimant si avant et avec des sentiments si puissants en leur imagination, les espèces et les images dont il leur voulait donner connaissance, qu'ils étaient forcés de reconnaître qu'il y avait quelque chose de surnaturel et que c'était lui véritablement qui leur apparaissait. Ce qu'il faisait quelquefois pour les corriger de leurs vices, suivant ce que disait Eliou au 33e chapitre de Job, « Le Dieu fort parle pour une première fois et pour une seconde à celui qui n'aura pas pris garde à la première, en songe, par vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes et lorsqu'ils sommeillent sur le lit, alors il leur ouvre l'oreille et scelle son châtiment sur eux. » C'est-à-dire, il leur représente leur jugement comme tout dressé et tout arrêté, et leur fait voir leur arrêt comme tout scellé, si promptement ils ne se repentent de leur péché. Afin, dit-il, qu'il retire l'homme de ce qu'il prétend faire et qu'il éloigne la fierté arrière de lui. Ainsi, il le retire de la fosse et sa vue qu'elle ne passe pas par l'épée. D'autres fois, c'était pour les instruire des choses à venir, soit pour leur particulière condition, comme Joseph par les deux songes qui figuraient son exaltation en Égypte, soit pour l'état général de l'Église, comme Daniel par les visions et par les songes qu'il récite au 7e chapitre de son livre. D'autres fois pour les avertir de ce qu'ils avaient à faire, comme quand il avertit Joseph, le mari de la Sainte Vierge, d'emporter Jésus-Christ en Égypte, d'où il y commanda, puis après, en la même forme, de le rapporter en Judée. Et quand il fit voir à saint Paul un homme macédonien qui lui disait « Passe en Macédoine et aide-nous !» D'autres fois pour les consoler en leurs afflictions, pour les résoudre en leur complexité, et pour fortifier leur courage dans leur plus grande peine, comme quand il apparut en songe au jeune Salomon, tout au commencement de son règne, et quand il dit à l'apôtre saint Paul, si découragé à Corinthe, « Ne crains point, car je suis avec toi, et nul ne mettra les mains sur toi pour te mal faire, car j'ai un grand peuple en cette ville-ci. » Ainsi lisons-nous qu'il est apparu par trois fois à Jacob en songe. La première, quand il lui fit voir cette échelle, comme il s'en allait à Padan Aram. La seconde, quand il lui commanda de quitter Laban et de s'en retourner chez son père. Et la troisième, quand il descendait en Égypte à la sollicitation de Joseph, non sans appréhension des dangers qu'il pourrait courir en ce pays-là, comme son père et son aïeul en avaient couru beaucoup. Et que Dieu lui dit, « Ne crains point de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. J'y descendrai moi-même avec toi et t'en ferai remonter pour certains. » Lui témoignant en toutes ces apparitions-là qu'il était véritablement la garde d'Israël, qui ne sommeillait point et qui ne s'endormait point, mais veillait pour lui pendant qu'il dormait, conservant son corps, afin que le soleil ne donnât point sur lui de jour, ni la lune de nuit, et son âme, afin qu'elle ne succombât à aucune tentation. Et prenant soin tant de ses entrées que de ses issues, pour le préserver de tout mal. De ces trois apparitions, celle-ci est la première en ordre, et la plus excellente en effet, tant pour la vision que pour l'oracle. La vision fut une échelle qui était posée sur la terre, et qui de son sommet atteignait jusque dans les cieux, par laquelle les anges montaient et descendaient, et au-dessus de laquelle Dieu se tenait. Vision qui a été comprise de diverses manières, tant par les docteurs des Hébreux que par les interprètes chrétiens. Mais ce qu'ils ont dit de meilleur et de plus convenable, soit à cette histoire particulière, soit au mystère de piété et à quoi nous nous devons arrêter, c'est premièrement que Dieu a voulu assurer Jacob de la protection et de la conduite de sa providence en toute sa pérégrination. Et selon ce sens, l'échelle était le voyage du patriarche, qui se faisait certes sur la terre, mais dont le but était le ciel. Comme la navigation se fait bien sur mer, mais elle prend ses directions par rapport au pôle. Dieu se présentait au-dessus pour lui montrer qu'il voulait être toujours présent à ses réflexions, guidant ses pas, présidant sur tout son voyage, bénissant toutes ses entreprises et le protégeant de tout inconvénient et de tout malheur. Les anges allaient et venaient, montant et descendant par les degrés de cette échelle, pour l'assurer qu'il l'accompagnerait à l'aller et au retour, comme dépêché de Dieu pour sa conservation et pour sa défense. C'est là le premier sens qui s'offre d'abord et qui est fort convenable à l'histoire et même à ces paroles du Dieu de Jacob qui se tenait au-dessus de l'échelle. « Voici, je suis avec toi et te garderai partout où tu iras et te ferai retourner en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Mais notre Seigneur Jésus-Christ, vrai et légitime interprète des choses cachées dans l'Ancien Testament, montre qu'il faut monter bien plus haut et que c'est de sa venue en ce monde que ce songe s'entend proprement et véritablement. Quand il dit à Nathanaël, au premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'alors était venu le temps que se devait accomplir l'œuvre de la réconciliation des hommes avec Dieu, en vertu de laquelle le ciel, qui est fermé à tous les hommes, quand ils sont considérés en eux-mêmes, est rendu accessible, premièrement à leur prière, et puis aussi à leur personne, leurs âmes au sortir du corps y étant recueillies, et leur corps avec leurs âmes étant certain d'y être admis conjointement en la dernière et grande journée. Que par son incarnation et par l'exercice qu'il avait commencé de son office de médiateur, l'échelle était dressée de la terre au ciel, et que non seulement les anges descendraient des cieux sur lui, comme sur le chef de l'Église, mais aussi sur toute l'Église qui est le corps de Christ et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous, et sur chacun de ses membres qui réclamerait son saint nom depuis un bout du monde jusqu'à l'autre. Car ce sont des esprits administrateurs envoyés pour servir pour l'amour de ceux qui doivent recevoir l'héritage de salut. De cette échelle, le pied touchait à la terre, proche de la personne du bon Jacob, pour représenter la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui alors était cachée dans les reins de ce saint patriarche, dormant et ne le sentant pas, jusqu'à ce que Dieu le lui eût révélé, et par ce symbole et par son oracle, lui promettant en ce Messie qui devait descendre de lui la bénédiction de sa race et de toutes les nations de la terre. Le sommet de cette échelle atteignait au ciel pour figurer sa nature divine qui a là-haut le siège de sa gloire et de sa majesté suprême. Or l'une a été jointe à l'autre par cette œuvre admirable de l'incarnation pour le salut de tous les élus, envers lesquels, parce qu'ils sont considérés comme un même corps avec Christ, le Père est apaisé, de sorte qu'il leur ouvre les portes de sa maison. Celui qui était au-dessus, apparaissant à Jacob et parlant à lui, était le Fils de Dieu lui-même, qui devait être incarné en son temps et qui le protégeait dès lors non seulement comme l'un de ses serviteurs, mais comme l'un de ses pères selon la chair. Car la nature humaine de Christ étant en Jacob en puissance, Christ le gardant, gardait la chair même qu'il devait prendre et conservait en la personne de ce saint homme la bénédiction de toutes les nations de la terre. C'est le mystère du médiateur qui a été proposé au Père de l'Ancienne Alliance, quoique d'une façon obscure, sous le voile des types et des cérémonies légales, et auxquels, ayant cru, selon la mesure de connaissance qu'il a plu à Dieu de leur en donner, ils ont par cette foi obtenu la rémission des péchés, l'esprit d'adoption, le repos de leur conscience, et enfin, la vie éternelle. Car jamais aucun n'a été réconcilié avec Dieu que par le moyen de Jésus-Christ, et comme il n'a jamais eu qu'un seul Dieu, qui a toujours été le même sous l'Ancien et sous le Nouveau Testament, aussi n'y a-t-il jamais eu qu'un seul médiateur, qui a toujours été le même, soit sous l'Ancienne, soit sous la Nouvelle Alliance, à savoir Jésus-Christ homme, lequel Dieu a proposé de tout temps pour propitiatoire par la foi en son sang. C'est celui auquel ont rendu témoignage tous les prophètes et duquel aussi tout le Nouveau Testament nous enseigne que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, à savoir Jésus-Christ le juste, que c'est lui qui a fait la propitiation pour tous nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux de tout le monde, qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés, que celui-là seul, afin qu'il n'y ait aucun qui prétende d'être réconcilié avec Dieu et reçu en son paradis, ni par ses propres œuvres, ni par les prétendues satisfactions et les prétendus mérites d'aucune créature, mais que nous reconnaissons tous que c'est en Jésus-Christ que se trouve le salut et la vie, comme en celui qui nous a été fait de par le Père, sagesse, justice, sanctification et rédemption, et qu'en toutes nos nécessités corporelles et spirituelles, pour trouver grâce devant Dieu, nous recourions à la faveur, à l'intercession et au mérite de ce grand Rédempteur, comme lui-même nous y convie, par une charité ineffable, nous tendons les bras en sa croix et nous ayons en la parole de sa grâce. Regardez à moi les bouts de la terre et soyez sauvés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et travaillés, et je vous soulagerai et vous trouverez repos à vos âmes. Toute autre échelle est trop courte pour parvenir de la terre jusqu'au ciel, ou pour du ciel atteindre jusqu'à la terre, et trop faible pour nous soutenir, pesants comme nous sommes, à cause de notre nature terrestre et du poids énorme de nos péchés. Les saints, par leur faveur, par leur intercession et par leur mérite, ne peuvent nous servir d'échelle, car ils ont besoin eux-mêmes d'en avoir une pour parvenir à cette union parfaite avec Dieu, en laquelle consiste toute leur béatitude et toute leur gloire. Et c'est pour eux aussi, bien que pour nous, que celle-ci a été dressée. Les anges aussi peu, car il en est bien dit ici qu'ils montent et descendent par l'échelle, mais nous ne trouvons en aucun lieu qu'ils soient eux-mêmes l'échelle pour monter. La mère même de notre Seigneur Jésus-Christ ne saurait nous rendre ce service, car elle-même est parvenue au ciel par cette échelle et ne s'est jamais proposée pour rédemptrice des pécheurs, ni pour médiatrice envers Dieu. Mais comme humble servante et reçue en grâce, elle reconnut et réclamait aussi bien que tous les autres fidèles Jésus-Christ pour sauveur. Par conséquent, nous ne saurions assez détester ou l'aveuglement ou l'audace de ceux qui, vis-à-vis de cette échelle si suffisante et si salutaire que Dieu nous a dressée, en dressent d'autres qui lui égalent et même qui lui préfèrent, comme ceux qui récitent que Léon, l'un, disent-ils, des plus intimes, des plus dévots et des plus familiers disciples du glorieux saint François, étant une fois ravi en esprit, vit une longue et large plaine, comme une image et une représentation du dernier jugement. Et en cette plaine, où les anges, au son de leurs trompettes, convoquèrent de tous les endroits de la terre les vivants et les morts, deux échelles dressées de la terre jusqu'au ciel, l'une rouge, au-dessus de laquelle était Jésus-Christ, avec un visage sévère et irrité, l'autre blanche, au-dessus de laquelle se présentait la Vierge bienheureuse, avec un visage doux et riant. Et que saint François appelait ses frères et les encourageait à monter par cette échelle rouge sur laquelle Christ se tenait, mais que comme ils pensaient y monter, ils tombaient tous par terre, qui du premier, qui du second, qui du troisième échelon. De quoi ce vénérable saint, faisant l'étonner, il leur criait tout haut qu'ils aillent vers l'autre, au-dessus de laquelle se tenait la Vierge qui, les voyant monter, leur tendait aussitôt la main, les recevait et les loger dans le paradis. Jugez par là en quelle qualité ils servent et adorent la Sainte Vierge. Et si ce n'est pas lui dresser un trône égal à celui de notre Sauveur, et même faire Jésus-Christ un Rédempteur de nom, et la Vierge Mère une Rédemptrice en effet. Ici, mes frères, que ferons-nous? Nous tairons-nous? Mais qui pourrait se taire en une chose si odieuse? Parlerons-nous? Mais où trouverons-nous des paroles assez fortes pour détester l'impiété de ces esprits d'erreur et de mensonge qui, pour plonger de plus en plus les pauvres peuples ignorants et stupides dans l'idolâtrie et dans la superstition, n'ont point de honte d'inventer de telles fables, de réciter ces exécrables visions et de publier parmi les chrétiens ces illusions du diable? Certes, mes frères, nous n'avons pas ainsi appris Christ. Ce n'est pas la doctrine qui nous a enseigné quand il a dit « Nul ne vient au Père, sinon par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie. » Et en laquelle ses apôtres nous ont instruits, nous montrant par tous leurs écrits qu'il n'y a point de salut en d'autre qu'en Christ, et que c'est lui qui est notre justice, notre paix, notre espérance et notre gloire. Ce qu'il n'attribue jamais à nul autre. Non, non, il n'y a qu'une échelle par laquelle nous ayons moyen de monter jusqu'au ciel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et l'homme, le vrai Emmanuel, qui fait que Dieu est avec nous et que nous sommes avec Dieu, et même que Dieu est à nous et que nous sommes à Dieu. Car ainsi pouvons-nous parler par le bénéfice de Jésus-Christ, De même que l'épouse disait de l'époux dans le Cantique des Cantiques, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Il nous faudrait passer maintenant à la considération des paroles que Dieu dit à son serviteur. Mais l'heure qui est écoulée et la longueur de l'action que nous avons à faire nous contraint d'arrêter ici et de vous exhorter à appliquer à l'instruction et à la consolation de vos âmes tout ce que nous venons de vous dire. Premièrement, lorsque vous voyez ce saint homme hors de la maison de son père, étendu sur la terre, dormant tout seul au milieu d'une plaine, vous vous devez représenter l'état auquel il plaît à Dieu que vous vous trouviez aujourd'hui, les uns étant hors de leur maison, éloignés de leurs parents et de leurs amis, gémissant sous diverses peines et incommodités, les autres attendant que leur tour vienne pour en faire de même. Car la mortalité allant ainsi de lieu en lieu et faisant, comme vous voyez, de si grands ravages par toute la province qui se peut promettre d'en être exempt. Vous donc, premièrement, très chers frères de Montpellier, de Nîmes et d'Anduze, qui êtes retirés ici à cause de la calamité de ces temps, consolez-vous en cet exemple. Ni vous ni moi ne sommes pas meilleurs que Jacob, qui était la branche principale du peuple de Dieu, et néanmoins, il s'est trouvé en ces mêmes peines, quoique pour différents sujets. Dieu voulant montrer à lui et à nous qu'ici nous n'avons point de cité permanente, mais que nous devons aspirer de toutes les affections de nos cœurs à celle qui est à venir. Tant que nous sommes ici-bas, nous y sommes tous étrangers et comme de pauvres passants, aussi bien que nos pères. Mais il viendra un jour que nous nous rencontrerons tous en la Jérusalem céleste, qui est notre vraie patrie, où, étant une fois reçus, nous n'en serons jamais transportés. Cependant, c'est à nous à pleurer nos fautes avec une vraie repentance, à porter patiemment les ennuis que nous nous sommes procurés par nos rébellions contre Dieu et de le prier jour et nuit pour nos pauvres frères que nous avons laissés dans l'embrasement, qu'il lui plaise de les préserver par sa grande miséricorde et leur rendant bientôt la santé. Nous, qu'il nous fasse aussi retourner avec eux afin que tous ensemble nous le puissions glorifier dans sa maison de la grâce qu'il nous aura faite. Et vous, mes frères, qui êtes ici dans vos maisons, et même au milieu desquelles Dieu nous dresse aujourd'hui l'échelle de notre réconciliation avec lui, gardez-vous bien de faire comme Agag, qui, sous prétexte que tous les autres Amalécites ayant été tués, il avait épargné et disait « Pour vrai, l'amertume de la mort est passée, ma vie est sauve, je n'ai plus rien à craindre. » Et tout de suite après, il fut frappé par la juste vengeance de Dieu, mais adorant avec crainte et reconnaissance, et son jugement sur les autres et la miséricorde envers vous, tâchez à prévenir sa colère par une vraie repentance. Néanmoins, reconnaissant en votre conscience de combien d'ingratitude et de péché vous êtes coupable envers lui, préparez-vous avec humilité, patience et douceur d'esprit à tout ce qui lui plaira de vous envoyer. Disant avec Élie et David, c'est l'Éternel, il fera de nous ce qui lui plaira. Le saint patriarche Jacob a bien passé par cette épreuve et s'est vu réduit à coucher tout seul, à découvert, au milieu d'une campagne. En cet état-là, néanmoins, il dormait en assurance, parce qu'encore qu'il semble en avoir pour toute couverture que le ciel et pour tout chevet qu'une pierre, et être là exposé à l'incursion des hommes et des bêtes, en effet, il se reposait sur la bonté de Dieu. Il était à couvert sous la protection de sa providence, et les anges et lui lui servaient comme de garde, lesquels, ayant toujours les yeux sur lui et ne le perdant jamais de vue, le préservaient très puissamment de tout fâcheux accident. Peut-être n'avait-il jamais dormi de sa vie si doucement, même quand il était dans la maison de son père et dans un bon lit. Ainsi, Saint-Pierre, dans la prison, quoiqu'il se vit chargé de fer et environné de gardes armés, et qu'il n'ignorait pas qu'Hérode l'avait destiné pour victime à la cruauté de ce peuple auquel il avait dessein de plaire, nonobstant tout cela, il dormait avec une merveilleuse tranquillité au milieu de ses gardes. Vous, mes frères, faites en de même. Rejetez votre charge sur l'Éternel et il vous soulagera. Humiliez-vous sous sa main puissante afin qu'il vous relève quand il en sera temps. Et déchargez tous vos soucis sur lui, car il a soin de vous. Quand vos ennuis vous pressent, jetez-vous entre les bras du Seigneur Jésus et appuyez-vous sur son cœur, comme son disciple bien-aimé, lui disant « Ô doux et charitable Sauveur, qui a promis soulagement et repos à nos âmes, toutes les fois qu'étant chargés et travaillés, nous recourons à toi, qui nous a même commandé d'y recourir avec cette espérance, ouvre-moi ton sein et me presse contre ton cœur comme un de tes disciples et de tes bien-aimés. Que ta main gauche soit sous ma tête et que ta main droite m'embrasse pour m'animer de ton esprit, me réchauffer par ta chaleur, me parfumer de ta sainteté et me faire sucer les mamelles de tes saintes consolations et goûter incessamment toutes les délices de ta gloire. Quand vous lui ferez ces prières et que vous les lui ferez de bon cœur, ne doutez nullement qu'il ne vous exauce en sa grâce. Pendant que ce saint patriarche dormait avec tant de douceur et d'assurance, à l'ombre de la providence de Dieu, il se fit voir à lui en songe et lui fit entendre sa voix, cette voix douce, cordiale, restaurante et vivifiante, qui lui remplit l'âme d'un saint respect envers sa majesté et d'une ferme espérance en sa grâce et en son amour. De sorte qu'à son réveil, il se sentit transporté de joie et rempli d'une parfaite confiance en celui qui lui avait donné un si grand et si manifeste témoignage de sa faveur. Ne doutons point aussi, mes frères, que quand nous nous reposerons sur sa providence et qu'avec une vraie foi, nous nous remettrons à sa volonté, il nous traite de la même sorte. Et comme ce songe si agréable par lequel il lui donna les assurances de sa grâce semblait bien être qu'une frivole imagination, et néanmoins il eut un événement très réel et de très grande consolation pour ce saint patriarche, comme étant d'une nature toute différente à celle des autres songes, parce que l'origine en était céleste, la signification divine et l'impression très intime et très efficace. De sorte qu'il se trouva enfin une vérité et non point un songe. Ainsi, encore que les promesses que nous vous faisons de la part de Dieu, de son assistance dans vos malheurs, de la restauration future de son Église, et principalement de la gloire et de la béatitude éternelle qui vous est préparée au ciel, semblent, au prix des avantages présents et réels des impies, n'être que des paroles, des imaginations et des songes, assurez-vous qu'elles s'accompliront à la fin, jusqu'à la moindre circonstance, et que les songes des fidèles se trouveront, au bout du compte, plus solides que tout ce que les profanes estiment de plus réel au monde. Cela est fort paradoxe à la chair, mais tenez-le pour un oracle de l'Esprit de Dieu, que leurs réalités se trouveront un jour n'avoir été que des songes et des chimères. Quant à leur réveil, je dis au réveil général de tous les hommes, ils se verront tout confus devant un Dieu, pâle, tremblant et dépouillé de tous leurs avantages. Ceux qui seront comme celui qui, ayant rêvé la nuit qu'il mangeait, trouve au matin son âme vide, comme il est dit dans Ésaïe, et qu'au contraire, les songes des enfants de Dieu se trouveront être des vérités quand ils verront, comme Joseph, leur gerbe élevée par-dessus celle de tous les autres, et qu'ils seront au-dessus du soleil, de la lune et de tous les astres, régnant et triomphant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu donna à Jacob pour consolation en ses ennuis et pour assurance contre ses craintes, ce fut cette échelle admirable et la promesse de son assistance perpétuelle, de la possession de sa Canaan et de la bénédiction de lui et des siens en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la même chose, mes frères, qui nous donne aujourd'hui pour nous consoler, pour nous réjouir et pour nous fortifier. Nous proposons en ce texte et sur cette table l'échelle mystique qu'il a dressée en l'accomplissement des temps pour notre exaltation en son paradis. Je veux dire, son Fils bien-aimé qui, pour nous faire enfants de Dieu, a voulu être fait fils de l'homme et souffrir en sa vie toutes les misères et toutes les langueurs, et en sa mort tous les opprobres et tous les tourments que nous avions mérités par nos fautes, afin que pour l'amour de lui, elles nous fussent pardonnées. C'est lui qui, en ce saint sacrement, sous les signes du pain et du vin, nous donne sa propre chair pour viande et son propre sang pour breuvage. Car comme dans les affaires humaines, souvent en donnant une plume, un anneau, une clé ou quelque autre chose de peu d'importance, on effectue le transfert véritable des choses que ces signes-là représentent. Et les personnes qui reçoivent ces signes sont réellement investies des choses mêmes. Ainsi, en recevant le pain et le vin qui nous sont donnés en l'Eucharistie, par la main des ministres de Jésus-Christ, nous devons faire état que nous le recevons lui-même en esprit et en même temps en vérité, sa personne et tous ses mérites, son esprit et toutes ses consolations, son paradis et toutes ses félicités. C'est là le vrai et solide contentement de tous les vrais fidèles. Et le doit être aussi, si nous sommes vraiment de ce nombre, l'unique sujet de nos joies. Qu'en recevant, et en cet évangile, et en ce sacrement, un bien si précieux et si grand, en don perpétuel et irrévocable, nous puissions dire, et vivant et mourant, je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré soi-même pour moi. Et par cette échelle, monter jusqu'au ciel et être unis inséparablement avec Dieu. Mais si nous désirons avoir part au bénéfice de cette échelle, aux promesses de cet évangile, aux sacrements de cette alliance, aux grâces qui nous sont offertes sur cette table, à cette communion mystique avec Christ, à cette vraie et salutaire réconciliation avec Dieu, il faut que nous soyons tels qu'était Jacob, et non pas tels que son mauvais frère Ésaü. Ils étaient tous deux enfants d'Isaac. Ils avaient été conçus en même ventre, élevés en même maison, nourris de même mamelle, mais au reste, des naturels merveilleusement différents. Car Ésaü était un profane, qui vendit sa primogéniture pour un potage, un homme violent, emporté, vindicatif, sanguinaire, même contre son propre frère, qui, pourvu qu'il satisfît à ses désirs charnels, ne se souciait nullement s'il plaisait ou déplaisait à Dieu, au monde, à son père, à sa mère, à laquelle aussi il donna de très grands ennuis en se mariant contre son gré à des femmes étrangères et infidèles. Et Jacob, au contraire, était un homme sage, dévot, cherchant sur toute chose la bénédiction de son père, d'une nature douce et paisible, qui aimait mieux se retirer que d'avoir querelle, encore qu'il eût le droit de son côté, et qui en toute chose se montrait sage, docile, obéissant à son père et à sa mère, et se soumettait sans murmure à tous leurs commandements et à tous leurs conseils. Voilà une grande différence. Aussi Dieu les a traités fort différemment. Car le premier s'est vu privé de la bénédiction de son père, et a été en exécration à sa mère. Il a bien possédé quelques avantages selon le monde, mais il a été haï de Dieu, destitué de l'assistance de son esprit et privé des consolations de sa grâce. Jacob, au contraire, bien qu'il fût et plus jeune, plus faible, plus craintif, et en toute façon moins heureux et plus méprisable selon le monde, a été néanmoins, sans comparaison, plus heureux en effet. Dieu qui l'aimait, l'accompagnant partout, le consolant par ses visions, le conseillant par son esprit, l'environnant de ses saints anges et le couronnant de ses grâces et de ses bénédictions. Nous aussi, mes frères, nous devons faire état que nous sommes bien tous ici dans une même maison, entendant un même évangile, participant à même sacrement, comme membres d'un même corps quant à la communion externe et visible. Mais que cela ne suffit pas pour être aimé de Dieu, consolé intérieurement par sa grâce et admis à l'héritage de son royaume. Car ceux qui sont impies et profanes comme Ésaü, qui n'ont aucun sentiment dans le cœur, ni de la grâce de Dieu, ni pour sa gloire, qui vendraient leur primogéniture pour un potage, qui sont audacieux, violents, emportés, vindicatifs, pleins d'envie et de malice contre leurs frères, qui affligent l'Église, leur mère, par leurs conversations scandaleuses, par leur mariage et leur alliance illégitime, par leur humeur fière, turbulente et outrageuse, ne peuvent prétendre de part à la grâce, ni à la gloire de Christ, ni à la communion de son corps mystique, dont ils se rendent entièrement indignes. Ce n'est pas à ceux-là que Dieu ouvre la porte des cieux et qu'il tend l'échelle pour y monter. Ceux-là n'ont point de part ni de mémorial en Jérusalem. Ils s'approchent de cette table, ils y reçoivent leur condamnation et non point leur salut. Mais ceux qui vivent comme Jacob, en gens de bien et craignant Dieu, cherchant premièrement le règne de Dieu et sa justice, qui est la vraie bénédiction de leur Père, honorant l'Église qui est leur mère, s'assujettissant à sa discipline, qui sont paisibles, bénins, doux, qui supportent par charité les défauts de leurs frères, qui supportent patiemment leurs outrages et leurs menaces, qui acceptent d'être gênés de toutes choses plutôt que d'être en querelle avec eux, et qui, après tout cela, quand Dieu les afflige, ne murmurent point contre lui, mais qui ont sans répugnance où il les mène, et qui, parmi les plus grands dangers, dorment en assurance sur la confiance qu'ils ont en son amour et en sa protection paternelle. Ce sont ceux-là qui l'accompagnent, ce sont ceux-là qu'il protège. C'est pour ceux-là qu'il a envoyé son Fils bien-aimé en l'incarnation et en la méditation duquel il leur a dressé l'échelle pour parvenir à sa gloire et à sa béatitude. C'est à ceux-là et non à autres qu'appartiennent les promesses de l'Évangile et les grâces offertes en cette table. Voulons-nous donc nous en approcher à notre consolation et à notre salut, et y recevoir non les signes externes seulement que les bons et mauvais y reçoivent, mais la vie, la justice, la sanctification, le repos de l'âme et l'assurance de la vie éternelle? Étudions-nous à être comme Jacob, et soyons comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient, nous supportant l'un l'autre et nous pardonnons les uns aux autres. Si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ nous a pardonné, nous aussi faisons le semblable. Soyons revêtus de charité, qui est le lien de perfection, et que la paix de Dieu tienne le principal lieu en nos cœurs. Quand nous vivrons ainsi, Dieu, qui n'a jamais délaissé Jacob, ne nous abandonnera point aussi. Mais en quelque part, et en quelque état que nous puissions être, il sera toujours auprès de nous. Il nous consolera dans tous nos maux, il nous délivrera de la main de tous nos ennemis, il nous couronnera de toutes ses grâces, il nous recueillera enfin, selon notre désir et notre espérance, en l'héritage de la gloire, dont nous avons ici la promesse et le sacrement. À lui, comme au Fils et au Saint-Esprit, soit honneur, gloire et louange, au siècle des siècles. Ainsi soit-il.